Je vais me permettre de faire un tout petit mot de, non pas de conclusion, mais d'épilogue, en parlant un peu quand même de l'Allemagne. Il me semble difficile à l'Institut Goethe de ne pas parler de l'Allemagne, mais en même temps, c'est un peu gonflé de ma part parce que c'est une question qui est, s'agissant de l'Allemagne, vraiment pas facile du tout. Alors, ce qui vient à l'esprit d'abord, pour aller très vite, c'est la figure de Arminius. Ou de Hermann, qui est l'équivalent, si on veut, germanique d'Astérix, qui est au tout début de notre ère, un germain, d'ailleurs un chérus, comme on dit, qui était très intégré d'abord dans la culture, dans la société romaine, d'où son nom Arminius, alors qu'il s'appelait probablement Armin lui-même, mais qui s'est révolté contre le traitement très brutal des barbares du Nord par Rome. Tacite parle de 9 après Jésus-Christ de tout cet geste des batailles contre les Germains. Et au centre, il y a la fameuse bataille d'Arminius, qu'on les Allemands appellent Hermannschlacht, ou quelquefois Varusschlacht, au cours de laquelle Arminius, à la tête de tribus fédérées, donc il avait réussi à fédérer pas mal de peuples germains, écrasa les Romains, détruisant les 3 légions de Varus, hein, d'où la plainte du vieil Auguste à Rome, Varus, où sont mes légions. Bon. Cet Arminius, d'ailleurs, connaîtra, comme Vercingétorix, une fin tragique. Cette figure a été oubliée, en fait, pendant un millénaire et demi, et elle s'est constituée en mythe seulement beaucoup plus tard, au moment où on a, comme toujours au XVIe siècle, on a commencé à le ressortir des limbes pour le comparer aux héros antiques. Et cela, dès donc le XVIe siècle, en particulier avec le personnage intéressant d'humaniste, combattant, poète, qui s'appelait Ulrich von Hutten. Et ensuite, ce thème de la bataille mythique d'Arminius a été le sujet d'œuvres littéraires assez nombreuses au XVIIIe siècle chez le grand poète Klopstock et au XIXe siècle chez Kleist et un petit peu plus tard chez Grabert. En fait, à travers ce mythe d'Arminius, chef des Chirux et vainqueur des Romains, c'est l'Allemagne divisée, à l'époque toujours l'Allemagne divisée, qui se rêve comme unifiée. Et il est absolument logique que, après l'unification sous la férule prussienne en 1871 de l'Allemagne, une statue soit dressée pour cet Arminius dans le Teutoburger Wald. Je l'ai mis à gauche, hein, c'est la statue donc de Hermann ou de Arminius, c'est une région qui est proche de Osnabrück, donc au nord de l'Allemagne. Ceci donc après l'unification opérée par la Prusse, à travers en particulier la guerre, vous le savez, contre la France, la guerre de 70. Cette statue a été érigée en 1875. Et il est logique aussi que Hitler ait prononcé un discours au pied de cette statue en 1932. Le problème, et justement je viens de le dire, c'est que le nazisme a accaparé et par là, d'une certaine façon, ou même d'une façon tout à fait certaine, rendu plus ou moins tabou ce mythe fondateur, comme il l'a fait d'ailleurs pour le mythe du Reich, ou d'une certaine façon, peut-être moins radicalement, pour le mythe de Siegfried et des Nibelungen. Je ne veux pas détailler tout cela, mais disons qu'avec les Siegfried, les Nibelungen, voilà une matière qui a été redécouverte au milieu du XVIIIe siècle, qui a donné lieu à des traductions en allemand moderne, et on sait que ça a inspiré en particulier Wagner. Ce que Wagner en a fait a été évidemment beaucoup plus important que ce qu'un dramaturge contemporain de lui, qui s'appelait Hebel, en a fait. C'était également une trilogie qu'il a fait. Wagner, on peut dire, a donné à ce mythe une résonance universelle. Au cours de son histoire, l'Allemagne a hésité, en fait, entre Hermann, sorte de Wilhelm Tell allemand, si l'on veut, et les dynasties impériales successives, vous savez, les Staufen, avec le personnage de Barbarossa, qui va revenir lui aussi, qui sont évoqués d'ailleurs par l'écrivain romantique dont je dirai deux mots tout à l'heure, et qui s'appelle Arnim, dans son grand roman « Les gardiens de la couronne », des Kronwächter. Ensuite, les Habsbourg, un mythe toujours étonnamment présent, vivant en Autriche, et enfin les Hohenzollern, ceux qui ont été les artisans de l'unification de l'Allemagne. Notez que Schiller a écrit une, entre les nombreuses pièces que Schiller a écrites, il en a écrit une sur Jeanne d'Arc, la Pucelle d'Orléans, il en a écrit une sur Wilhelm Tell, sur Guillaume Tell, il n'en a pas écrit sur Hermann. On peut évoquer aussi, c'est la deuxième image que j'ai donnée, la dimension mythique prise au XIXe siècle d'une manière relativement brève, si l'on veut, par ce que les Allemands ont appelé le Vater Rhein, le Père Rhin. Vous savez, la diatribe, ou même des personnages, enfin des auteurs comme Musset ou Heine ont été impliqués. Non, vous ne l'aurez pas, votre Rhin allemand, non, ils ne l'ont pas lu. Enfin, bon, c'est pas toujours très très brillant. Et c'est un tableau un dessin que j'aime bien, bien gentiment kitsch, d'un peintre romantique connu qui s'appelait Moritz von Schwind. Alors, je ne sais pas comment on arrive à jouer du violon avec une cuirasse comme ça, c'est un peu difficile, mais c'est un personnage mythique. Alors, la division de l'Allemagne explique sans doute en grande partie le flou sur cette question de du ou des mythes fondateurs. Je me permets de redire la phrase que Schiller a écrite dans un poème, donc avant sa mort en 1805, et qui est pratiquement la même chose que l'auteur italien disait tout à l'heure. L'Allemagne, mais où est-ce? Je ne parviens pas à trouver ce pays. Là où commence l'Allemagne savante, disparaît l'Allemagne politique. C'est un texte que j'avais lu l'autre soir à propos du plurilinguisme en Europe. Le particularisme avait donc été maintenu. Les événements avec la chute de l'Empire en 1806 a fait même supprimer le seul lien formel qui unit les différentes parties de l'ensemble. Les romantiques qui ont hésité entre la Prusse et l'Autriche ont rêvé d'un Saint-Empire de légende, d'une unité nationale perdue, une communauté plus ou moins mystique d'un retour de ce qu'ils considéraient comme l'âge d'or. Plus tard, vous savez, la RDA s'est appuyée, outre la référence évidemment officielle à l'utopie communiste, sur l'antifascisme qui a fonctionné, une réalité historique, mais globalisée et transformée en mythe fondateur. Quant à l'Allemagne de l'Ouest, je crois qu'il est évident qu'elle a manifesté pendant très longtemps une grande réticence vis-à-vis de toute dimension mythique, de toute évocation de mythe, étant donné que le Troisième Reich fonctionne là, on pourrait dire comme, je ne dirais pas un anti-mythe, mais disons un contre-mythe, un mythe négatif qui bloque et qui frappe à l'avance d'interdits tacites toute recherche d'un mythe fondateur de l'identité nationale. Déjà Arnim, dont j'ai parlé tout à l'heure, le romantique, avait dit « La couronne allemande ne sera sans doute pas reconquise par autre chose que par la culture. » Et la culture, c'est la traduction de « geistige Bildung ». Et je crois que c'est intéressant. D'une certaine façon, la culture, cette Bildung, tend à devenir au cours du temps une sorte de valeur fondatrice à laquelle s'attache une dimension quasi mythique. Et cela à la fois, et ça unifie vraiment, à la fois chez les romantiques et chez les classiques, lesquels se réfèrent à l'Antiquité, alors que les romantiques se référaient au Moyen-Âge plutôt. C'est étonnant le rayonnement absolument unique au monde d'une toute petite ville provinciale comme Weimar. C'est tout à fait curieux, et ça s'explique justement par cette dimension de la Bildung, le terme de Bildung étant théorisé d'une manière officielle et définitive par un autre classique berlinois, c'est Humboldt. Donc c'est la culture plus que la politique peut-être qui devient la source vivante mythique à la fois de l'unité, ce qu'au fond Günter Grass avait pensé lui aussi au moment de, vous savez, avant la réunification, et sa réaction à la réunification très négative s'explique par là, c'est qu'il avait pensé que l'unité pourrait se faire que par le biais de la culture et non pas par le biais d'une réunification politique. Pourtant, alors, la dernière image que je veux montrer, c'est celle-ci. À la suite du 9 novembre 1989, c'est-à-dire la date de la chute du mur de Berlin, on a pu écrire, j'ai trouvé par hasard dans un volume de Merriam, qui date de 90, que le 9 novembre pourrait être finalement peut-être une date à dimension mythique, la date qui reflèterait peut-être le mieux à la fois l'identité et les tensions internes du peuple allemand. Il y a eu en effet le 9 novembre 1918, révolution qui chasse les Hohenzollern et qui fonde la démocratie. Il y a eu le 9 novembre 38, c'est la fameuse, si je puis dire, Kristallnacht, la nuit de Cristal, le grand pogrom dans l'Allemagne du Troisième Reich. Et enfin, donc, la Wende, le tournant, le 9 novembre 89. Alors, il me semble personnellement que cet événement historique bouleversant, la chute du mur, la Wende, pourrait bien devenir peu à peu le mythe fondateur de l'Europe tout entière, bien que les autres pays aient, c'est un peu dommage, laissé l'Allemagne fêter toute seule le 9 novembre dernier l'événement à Berlin, 25 ans après. Voilà, merci.